Bonjour à tous et soyez les bienvenus au patio où il se passe toujours des choses intéressantes à la librairie Les Volcans. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Boualem Sansal qui me disait qu'il était transformé en marathonien puisqu'il a démarré la promotion de son livre qui s'appelle Vivre, le compte à rebours qui est édité chez Gallimard depuis le 5 et qu'au total il y a 40 dates, ça. On prend le micro ?
Je vais traverser la France dans tous les sens. J'ai fait 10 villes et il me reste encore 20-25. Alors, une ville à jour. Hein. Donc,
et demain, c'est où ?
C'est l'esclavage. Oui. Écrire, c'est l'esclavage.
Est-ce que c'est votre éditeur qui impose cela ?
Non, ça se négocie, ces choses-là.
Ça se négocie.
Comme je ne vis pas en France, donc on travaille sur des périodes. Mais tu peux nous consacrer combien de temps ? Et là, j'ai eu la bêtise de lui dire un mois. Et j'ai envie, une ville par jour. Voilà, tout simplement.
Et voilà, c'est tout simple. Alors, l'éditeur, parlons-en, c'est Gallimard. Et il y a une sacrée fidélité entre vous et lui. Parce que ça fait le. Alors, Vivre, c'est votre 10e roman déjà.
Ouais, chez Gallimard.
Et voilà. Et enfin, vous avez écrit 10 romans et les 10 ont été édités chez Gallimard.
Ouais.
Ouais.
D'autres ailleurs, mais chez Gallimard.
Oui, mais sur les romans, j'ai regardé, les 10 sont chez Gallimard. Pourquoi cette fidélité ? Parce qu'il vous fait confiance ?
Antoine Gallimard et moi, nous sommes des amis. Avant d'être éditeur écrivain, nous sommes des amis.
Est-ce que vous entendez bien Boualem ?
Ah
non, non.
Ah, voilà. J'ai tendance à.
Oui, parce que le micro est.
Pour m'agiter.
Et Lénaïque va le remonter un peu.
Voilà, nous sommes des. C'est de l'amitié, tout simplement.
C'est de l'amitié.
Voilà. Ouais. Quand je suis à Paris, j'habite chez lui. Donc on est des amis de longue date et c'est parti sur Antoine quand il avait 18 ans, donc dans les années à peu près au lendemain de l'indépendance, et amoureux de l'Algérie. Il a acheté une moto et avec des copains et ils sont venus faire le tour d'Algérie en moto. Le coup de foudre pour le pays, pour les filles, pour la cuisine. Il est revenu marqué à vie. Et donc j'ai écrit mon premier roman, que j'ai renvoyé le manuscrit à Gallimard. Et d'ailleurs, je me demande si je n'ai pas été publié un peu par, comme ça, je veux dire, par affection. Il s'est peut-être cru obligé de. Et voilà. Et donc, notre première rencontre a été le coup de foudre. On a parlé d'Algérie. Voilà. Et du coup, voilà, la chose s'est installée. On est sur ce. Et puis aussi, je suis avec l'éditeur direct, Jean-Marie Laclatine. Ah, c'est le grand amour. Voilà, j'ai que des amis là-bas, donc je peux écrire n'importe quoi, ce sera publié.
Bon, ils lisent quand même les manuscrits avant.
Peut-être pas pour moi.
Peut-être pas pour vous, d'accord. Alors, est-ce que ça pose un problème d'avoir un éditeur français comme Gallimard et d'habiter en Algérie ou pas ? Je me suis posé la question, ça change quelque chose pour vous ?
C'est quand même la grande maison, donc du coup, ça pose son bonhomme.
Oui.
Mais au contraire, ça m'a protégé parce que. Mon premier roman était quand même très, très critique à l'égard du régime. Et voilà, le fait d'être publié en France, dans une grande maison, ça fait quand même qu'on hésite un peu avant de déclencher les trucs policiers. Alors, évidemment, je suis surveillé, on enquête sur moi, on les écoute et tout, mais bon, c'est-à-dire que tout ce que le régime a pu faire contre moi, il l'a fait. Donc, d'abord, c'est de me lire manger. Moi, j'étais de formation scientifique, je suis un chercheur, je travaillais sur des choses extraordinairement compliquées, sur les turboréacteurs, je travaillais pour la NASA, j'enseigne l'économie, et donc ça a un peu refroidi les ardeurs, mais on m'attaque par derrière. Donc on m'a limogé de mon poste au ministère, ensuite de l'université, ensuite de l'école polytechnique où j'enseignais. Et puis, c'était pas assez, donc mon dossier a disparu. Moi, j'ai travaillé 30 années dans l'administration, mais j'ai pas de dossier. Je peux pas prouver que j'ai travaillé pendant. Ils ont tout disparu, mon dossier administratif. Donc, pas de retraite, pas de truc.
Ah oui, carrément.
Et puis ensuite, ils s'en sont pris de manière très sournoise à ma femme. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont monté ce dossier en disant que ma femme était israélienne. Elle n'a rien à voir avec. Mais ils ont fait courir le bruit que c'était une israélienne et que c'était une espionne. Alors je lui ai dit, écoute, vite, vite, démissionne, parce que là, l'espionnage, c'est le peloton d'exécution. Hein.
Oui.
Mais bon, voilà, après, les choses se sont calmées. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir de très grands amis en France et que le gouvernement algérien a toujours peur de déplaire à Paris. Bon, ça se passe bien, quoi.
Ouais. Mais par contre, vous êtes, comme on dit, blacklisté sur place ou pas ?
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que les libraires mettent vivre en vitrine
non,
ou pas?
En Algérie, blacklisté. Oui. Depuis donc mon limogeage, blacklisté, je n'existe pas. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à exister. Moi, je rentre, je vais chez moi. J'habite un tout petit village, dans un coin un peu désert. Et je vais chez moi, je ne fais pas de bruit. Ne pas attirer l'attention. Non, voilà, je ne les dérange pas. Il y a longtemps que j'ai compris que je ne pouvais rien contre nos deux ennemis en Algérie, c'est-à-dire les islamistes. Ils ont pris le pouvoir, c'est fini, ils contrôlent tout. Ils contrôlent le commerce de gros, ils contrôlent les âmes, ils contrôlent les consciences et tout, et la façon de vivre. Et puis le régime, c'est un régime policier que rien n'arrête. Hein. Tuer pour lui, c'est très facile, emprisonner, c'est très facile. Moi, je suis passé entre les gouttes jusque-là. Bon, je joue profil bas en Algérie. Mais quand je vais ici, je me déchaîne, évidemment. Je les accuse de tout, même de ce qu'ils n'ont pas fait.
Même cette bonne guerre, en fait.
Je me venge à ma manière.
Oui, tout à fait.
C'est mesquin, mais c'est comme ça.
Pardon, excusez-moi. J'ai un peu la voix de Dark Vador aujourd'hui. Merci au changement de température. Pour autant, vous n'avez pas envie de vous installer définitivement en France? Ce serait une très belle terre d'accueil, puisque finalement, vous avez beaucoup de succès en tant qu'écrivain.
Oui, mais c'est vrai, j'ai que des amis en France, et puis j'ai vraiment la chance de... Je connais très bien Chirac, j'ai trouvé très, très bien Sarkozy, Hollande, et même Macron, j'ai rencontré plusieurs... Je peux, c'est vrai, sur simple coup de téléphone, avoir... venir m'installer. Mais moi, un jour, Jacques Chirac, que j'embêtais toujours, parce que je faisais des reproches au gouvernement français d'aider les dictatures. Nous, on souffre dans nos pays africains, algériens, maghrébins, tout ça. Pourquoi? Parce que ces dictatures, si elles n'étaient pas soutenues par l'Occident, elles tomberaient en une journée. Qui leur livre les armes? Qui leur permet l'accès aux satellites? Qui et qui leur prêtent de l'argent, et c'est la France et les États-Unis, parce que eux, ils s'en fichent des peuples. Ce qu'ils veulent, c'est des dictatures qui tiennent bien la stabilité. C'est le maître mot, c'est la stabilité pour ne pas déranger les intérêts stratégiques des uns et des autres. Les intérêts stratégiques, vous avez compris, c'est le pétrole et les richesses minières. Bon, alors les gens s'en foutent. Et puis même s'ils disparaissent, on peut les reconstituer. Tous les déprimes de mariage... Et des primes de naissance, et on va reconstituer le cheptel. Donc, voilà. Et alors, donc, à chaque fois que je voyais Chirac, je disais, monsieur le président, je viens d'apprendre que la France a fait une ligne de crédit de 200 millions. Vous savez bien que la moitié va disparaître dans la poche de ces généraux, et que sur la moitié qui reste, la moitié va servir à acheter des armes. Et ceux pour lesquels, les choses pour lesquelles vous avez donné de l'argent, ils ne le feront pas. Alors la France, les pays occidentaux, quand ils donnent de l'argent à ces pays, c'est sur des programmes. Mettre de l'argent pour aider l'école, par exemple, pour aider l'université, et ainsi de suite. Des choses utiles. Mais l'argent est détourné. Avant même d'arriver à Alger, il est détourné. Il dit, on ne peut pas tout contrôler. Mais si, alors il ne faut pas donner. Voilà, c'est... Si vous ne savez pas où va cet argent, enfin vous le savez très bien, les services secrets français savent tout. Donc vous le savez très bien.
Ils savent que vous êtes à Clermont aujourd'hui.
Hein?
Ils savent que vous êtes à Clermont aujourd'hui.
Oui, sûrement. Donc, mais ils le font parce que je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà, on a besoin de votre pétrole, on a besoin que vous mainteniez la stabilité chez vous. Le reste, c'est des affaires domestiques, on s'en fiche. Et même les Algériens, ils savent pas se battre pour leurs droits. Alors, il faut savoir que se battre pour ses droits, c'est de la très haute ingénierie. C'est pas n'importe qui peut. Il faut avoir d'abord des connaissances, avoir la connaissance de ses droits. Les Algériens, quand on dit quels sont tes droits, je sais pas. Par exemple, j'ai le droit d'aller à la mosquée, des choses comme ça. Non, mais oui, d'accord, ça, c'est un droit, effectivement, t'as le droit. Mais et le reste? Mais ils ne savent pas. Définir quels sont ces droits, non. Alors, c'est pas le tout, de dire, voilà, moi j'ai droit à ceci, à une éducation, à la liberté de conscience, à ma liberté d'expression, enfin bref, je peux les lister. Mais il faut les instruments pour appliquer. La justice est entre les mains du pouvoir. Donc vous allez vous plaindre contre qui? vous allez défendre vos droits auprès de qui? Et nous n'avons pas les institutions. Regardez par exemple dans le domaine du commerce, il y a comme chez vous, il y a déjà les chambres de commerce où déjà on règle beaucoup de problèmes avec. Et puis vous avez le tribunal de commerce. Et donc des tas d'instruments qui permettent aux entrepreneurs et aux citoyens, que s'ils se sentent lésés, de... il y a des institutions où on arrive, mais là-bas ça n'existe pas. Il n'y a pas une loi de la concurrence. Ce que vous avez une loi qui réglemente, et vous avez un tribunal de la concurrence aussi. C'est-à-dire que si vous estimez que votre voisin exerce une concurrence déloyale, vous allez au tribunal, il y a un tribunal, juridiction spéciale, qui voit est-ce qu'effectivement, est-ce que cette concurrence est loyale ou déloyale. C'est très difficile. Mais en Algérie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, vous ne savez pas quels sont vos droits. Et même si vous savez, les institutions n'existent pas. Et puis alors le truc, c'est pot de fer contre pot de terre. C'est-à-dire si ce commerçant est le cousin du général, du chef d'état-major de la 6e région militaire, et que vous êtes un simple citoyen, c'est perdu d'avance. C'est même pas la peine d'aller vous plaindre. C'est même pas la peine. Nous, en Algérie, on appelle ça la justice téléphonée. Voilà, vous m'ennuyez, je téléphone au juge. Écoute, la dame là-bas qui est en rouge m'ennuie beaucoup. Et puis voilà. Et vous êtes convoqué le lendemain au tribunal. Pourquoi? On ne vous le dira pas. Moi, la première fois que j'étais, après le deuxième ou troisième livre, j'avais fait une critique vraiment très forte contre le président de la République. Et donc, quand je suis rentré, j'ai été cueilli à l'aéroport. Et puis, alors, ils me soumettent à 1000 questions. Alors, donc on m'amène au bureau, il me dit d'abord il me fait parler pendant une heure. Vous faites quoi? Je lui dis, vous savez, je suis fonctionnaire, je suis professeur à l'université. Donc pendant une heure, blablabla, blablabla, et pourquoi? Et vous avez fait quoi en France? Vous y étiez de tel jour à tel. Parce qu'entre temps, ils ont pris mon passeport, donc ils savent où j'étais. Et là, vous étiez en Allemagne, pourquoi? Je ne veux pas vous raconter ma vie. Vous m'incriminez de manière officielle et là, en ce moment, je répondrai à toutes vos questions. Alors, après une heure, il me dit, bon, maintenant, on va travailler. Ah bon, on n'a pas fini? Ah ben non. Il sort sa machine. Alors, nom, prénom. Encore 3 heures. Nom, prénom, date de naissance, et truc, et le nom de la maman, et votre femme, et truc, etc. Et puis, quand il a fini, sur ça, il me dit, vous signez. J'ai dit, je ne signe pas. D'abord, vous avez écrit ça en arabe, je ne lis pas l'arabe. Bon, je lis très bien, mais je ne sais pas lire en arabe. Je ne signe pas. Elle me dit, vous avez intérêt à signer, parce qu'on va envoyer ça au juge, et puis il va examiner. Ben, envoyez au juge. Moi, je ne signe pas. Ou vous traduisez ça, et je veux une traduction officielle, pas comme ça sur le coin de la table. Et donc, bon, donc, ils ont un peu compris que j'étais un peu retors. Et donc, après, ils ont utilisé des méthodes un peu contre lesquelles je ne peux rien. J'ai été limogé, j'ai jamais su pourquoi. Voilà, moi j'étais haut fonctionnaire au ministère, j'étais même le numéro 2 du ministère. Le matin, j'arrive avec ma voiture, je rentre, le policier ouvre la barrière, il ne veut pas l'ouvrir, il vient me voir, il me dit, je suis désolé, ordre du ministre... on ne peut pas vous laisser rentrer. Bon, je téléphone au ministre, il me dit pareil. Il me dit, ça vient de... Il me fait ça. Je dis, c'est quand même incroyable. Je dis, mais un fonctionnaire n'est pas au service ni du ministre, ni du président. Il est au service de l'État. Je suis un ministre de l'État, fonctionnaire de l'État algérien, pas de M. X et de M. Tartampion. Oui. Bon, elle est dehors. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et ça vous a permis, malgré tout, de... passer beaucoup plus de temps à écrire.
Ah, bah, formidable.
Parce que ça vous laisse du temps libre.
J'avais presque envie d'écrire à M. Bouteflika pour le remercier.
Oui.
Mais bon, c'était un peu... je me suis dit, là, pour le coup, je vais le mettre en colère et oui. Il va me fusiller. Mais je lui ai dit, bravo, maintenant j'ai tout mon temps, je voyage quand je veux, où je veux, tranquille. Et puis bon, j'avais la chance en plus d'avoir un visa permanent, donc je suis tranquille, j'ai même pas demandé de visa. L'envie m'en prend, je vais à l'aéroport, j'achète un billet sur place, et s'il y a une place, j'embarque.
Voilà. C'est presque formidable. La belle vie, quoi. Alors, en 2015, vous avez sorti un livre qui s'appelle 2084, La fin du monde. J'imagine qu'il y a un petit clin d'œil à George Orwell, un siècle plus tard. Et aujourd'hui, vous revenez nous voir, 9 ans plus tard, avec Vivre le compte à rebours. Et là, on est encore un peu dans cette idée de dystopie, de fin du monde. Ça vous fait peur, ça? Vous avez l'impression qu'on en est arrivé un peu au bout de notre système? Quand je dis nous, c'est voilà, la planète, les humains.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute qu'un jour, la Terre va disparaître? Soit télescopée par
un objet.
Un objet quelconque, astral quelconque. Et ça arrive à peu près au moins tous les 2 ans. Il y a 2 ans... un objet astral et a frôlé la Terre. S'il l'avait percuté, c'est un peu ce qui s'est passé il y a 60 millions d'années, lorsqu'un météorite est tombé sur le Mexique. Hein. Et puis voilà, l'humanité, il n'y a pas d'humanité à l'époque, les dinosaures qui vivaient sur Terre depuis 260 millions d'années, vous vous rendez compte? Nous, on est là depuis 100 000 ans, c'est tout. Les dinosaures ont vécu sur Terre 260 millions. Il y a 60 millions de ça. Plus rien. Et donc la Terre est repartie de zéro. Parce qu'après, toute la Terre était un volcan. Et donc il a fallu plusieurs millions d'années pour que ces volcans s'éteignent et que petit à petit, la vie qui s'était cachée, des trucs, des petites fourmis, des petits machins, à partir de là, c'est reparti. Et donc, ça arrive. Alors, là, il y a 2 ans, c'était vraiment sérieux. C'était réunion secrète, tous les pays. Là, ils ont tous dépassé leurs différends. Ils se sont réunis. Comment faire? Eh bien, voilà, grâce aux Américains, on les critique beaucoup, mais grâce à eux, cette fois, ils ont envoyé un petit truc, une petite bombinette, qui a dévié le truc, et il est passé entre la Terre et la Lune. Et alors là, je suis étonné qu'on ne le sache pas. En 2017, alerte générale. Évidemment, ça a été secret. Moi, pour moi, je le sais parce que je travaille dans ces domaines-là. Moi, j'ai gardé mes relations avec la NASA. J'ai travaillé pour eux sur des turboréacteurs et sur des moteurs de fusée. J'ai travaillé des années sur ces choses. Donc j'ai gardé le contact. Et c'était quoi? Eh bien, un objet très bizarre est entré dans notre système solaire, ce qui ne s'est jamais, jamais produit. Chaque système solaire a sa propre... les cailloux qui tournent là-dedans font partie de... On n'a jamais vu un corps astral passer d'un système solaire à un autre. Jamais. Parce que entre les deux... L'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Proxima Centauri, elle est à 5 milliards d'années-lumière. Entre les deux, il n'y a rien. D'où est venu ce truc-là? Déjà, quand le premier observatoire d'Hawaï a observé, il dit « Non, c'est pas possible, j'ai la berlue. C'est pas possible qu'un objet échappe à l'attraction de son système solaire et rentre attiré par un autre système solaire. Il y a le vide entre eux est de milliards d'années-lumière. Et donc, et là, alerte générale, tout le monde observe. Et puis alors, c'est un objet qui fait 500 mètres de long, à peu près 50 mètres de diamètre. C'est vraiment un cigare tout propre, tout net, brillant. Et puis on fait les calculs, le rapport volume-masse donne à penser qu'il est creux. Ça, on n'a jamais vu ça. Et donc, s'il est creux, donc il est habité. Il y a quelque chose dedans. Et alors, le clou, c'est que un objet astral a un mouvement. Il est attiré, disons, par telle étoile, comme les comètes. Elle ne change pas de direction. Et là, ce machin-là, eh ben, il va comme ça, puis il s'arrête, il part comme ça, il s'arrête, et ainsi de suite. Donc, cette chose navigue. Et dans le même temps, on a reçu un message radio qu'à ce jour, on n'a pas réussi à décrypter. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle. Il y a un message mais qui dépasse nos compétences, on ne sait pas. Donc, vivre, c'est ça. Donc, je pars de... Alors, on a des choses très curieuses. c'est que les Hawaïens, qui ont eu une culture magique, avant que l'observatoire, eux sentaient quelque chose. Et ils disaient, la fin du monde approche. Et ce corps-là, donc ensuite, bon, évidemment, les choses ont circulé, ils ont appris l'existence de ce truc, ils l'ont appelé Oumuamua, qui en hawaïen veut dire messager. Et du coup, c'est la folie. Donc moi, quand j'ai appris tout ça, puis j'ai suivi ça de très près, donc je me suis dit, on peut imaginer maintenant que ce vaisseau, alors s'il est amical, il va peut-être nous aider. S'il est inamical, il va nous attaquer. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Il est toujours en place depuis 2017. Alors, moi, donc, j'ai imaginé une fantasmagorie intéressante. Mais pourquoi je l'ai imaginé ?
Mais c'est très flippant ce que vous êtes en train de nous dire. Je sais pas, ça vous rassure.
Quelqu'un parmi vous, là, un jour, reçoit un message. Enfin, c'est pas un message, c'est une vision nocturne, quelque chose. Je ne comprends pas. Et puis, il s'efforce et puis, il finit par à peu près comprendre que cette voix qui lui parle, cette lumière qui lui parle, lui annonce que la Terre va être frappée par ce qu'on va appeler un sursaut gamma. Un sursaut gamma, c'est on va dire des rayons X, un milliard de fois plus puissant qu'une planète, une étoile qui explose et qui donc émet un rayonnement gamma est tellement puissant qu'il va éclater la Terre en poussière, quoi. Alors voilà, donc il imagine ça. Et puis il entend parler de Oumuamua. Donc du coup, dans sa tête, il y a des choses qui se construisent un peu à son insu. Et puis il dit, mais attends, mais est-ce que je suis seul, hein? Parce que nous avons toujours reçu des choses comme ça. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu une voix qui lui disait, Abraham, quitte ton pays et va où je te dirai. Voilà. C'est tout. C'est pas clair comme un message. Eh bien, il y a cru. Il a ramassé sa tribu, ses bergers, ses trucs, sa smala, quoi. Et il est parti en disant, cette voix qui m'a dit, va où je te dirai, en cours de route, va m'expliquer. Ben, il a tourné quasiment un siècle. Et il est mort à 120 ou 150 ans. Donc pendant un siècle, il a tourné, en disant, la voix va me parler. Donc il s'est perdu là-bas en Turquie, ensuite il s'est perdu en Égypte, et ainsi de suite. Et puis, et à un moment donné, cette voix lui dit, la terre promise, elle est là. Donc là, il s'arrête. Voilà. C'est comme ça qu'est né. Mais c'est le cas de Jésus qui vient et qui dit, je suis... C'était le cas de Moïse qui a entendu une voix, qui lui dit, va sur le mont Sion, la fin du monde approche, et le nouveau monde va commencer. Il lui donne les tables qui vont régir le nouveau monde. Et on est encore dedans. C'est le cas de Jésus, c'est le cas de Mahomet, c'est le cas chez les hindous. Partout, où nous vivons sur l'idée d'une fin de monde, et puis quelqu'un qui vient avec un message. Voilà, c'est une Bible moderne, ça. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, pour revenir vraiment au cœur de l'ouvrage, c'est l'histoire de Paolo qui, un jour, loupe sa station de métro. Donc, il sort trois stations plus tard. Et plutôt que de reprendre le métro dans l'autre sens, il part à pied. Et là, il tombe sur la façade d'un immeuble où il y a un grand écriteau, J-780. Et alors là, pour le coup, ça le perturbe un petit peu. Oui. Et c'est le point de départ.
Rêve, oui. Dans cette lumière, il lui semblait voir J-780.
Pourquoi 780 Ça fait à peu près 3 ans, donc je me suis dit, tiens, c'est le moment où Macron va partir.
Ah oui, tiens, ouais. Pas mal ça, oui, pourquoi pas. Non, j'ai pris ça dans la Kabbale juive. Oui. C'est une date importante de fin de monde, voilà. Et puis, alors, j'ai voulu une durée pas trop courte, pour faire construire l'histoire, hein. Et pas trop longue, parce que ça aurait fait un roman de 500 pages et ça apporterait rien. Donc c'est un peu un calcul d'optimisation entre le court terme et le long terme.
On voit que, on voit que le genre littéraire et le genre scientifique sont toujours très très proches l'un de l'autre.
Et comme moi, comme je le raconte dans un autre livre, moi j'ai reçu une formation de rabbin par accident. Je suis un rabbin par accident. J'ai été élevé par un rabbin quand l'Algérie était française, ou l'accident d'histoire de famille. Hein. Et donc, je pioche beaucoup là-dedans. C'est plein d'histoires merveilleuses. Dans la Torah et le Talmud, tout est là. Dans la Bible chrétienne, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a seulement la vie du Christ qui est passionnante. Le reste, bon, c'est pas lettre aux Corinthiens, lettre à ceci, lettre à cela. C'est pas intéressant. Et il n'y a que le passage concernant Jésus qui est... Mais lui-même est venu avec ce message que les premiers, les contemporains n'ont pas compris. Quand il vient, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis il s'adressait à ses pécheurs « Suis-moi ». Et ils l'ont suivi, Pierre et l'autre, l'ont suivi sur cette idée « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Sur cette simple phrase, ils l'ont suivi. Et c'est comme ça. Donc, je puise beaucoup dans tous mes livres, parce que c'est ma formation. Moi, j'ai 5-6 ans, j'ai été recueilli par ce rabbin, et donc il m'a formé. Et donc, dans le quartier de Bécourt, mon voisin, c'est Camus, Albert Camus, et c'est notre voisin. Ma mère était l'infirmière de Camus. Donc, entre Camus de ce côté, et le rabbin de l'autre, l'imam qui est fini par trouver aussi un imam.
Vous habitiez rue Darwin, c'est ça ?
Oui, rue Darwin, c'est une rue très, très, très étonnante, un quartier très populaire d'Alger, comme aussi Bab el Oued. Et donc, voilà. Donc, en cherchant dans la Kabbale, j'ai trouvé une histoire autour de... En fait, ce n'est pas 780, c'est 770.
Ah.
Donc, j'ai ajouté 10, parce que 770, ça fait trop de... Donc, 780, c'était plus facile.
Donc, Paolo se pose beaucoup de questions, il comprend un peu la chose, et puis, donc, il retrouve la personne qui a mis... le panneau sur sa fenêtre, qui s'appelle Jason, et à partir de là, tout va démarrer, et ils comprennent finalement qu'un vaisseau va venir sauver l'humanité.
Après, Samuel, etc.
Alors c'est marrant parce que...
On remarque que c'est tous des prénoms... Jason, c'est les Argonautes.
Oui.
Jason, la toison d'or. Et
reprenez bien le micro, parce qu'on ne vous entend plus. Oui.
Voilà. Et Samuel est un personnage très important de la Bible.
Donc là, il s'agit de se dire, on va essayer de sauver l'humanité grâce à ce vaisseau qui va venir nous chercher dans 780 jours. Sauf que le problème, c'est que le vaisseau, il est trop petit pour emporter tout le monde, enfin pour emmener tout le monde plutôt.
Voilà.
Et se pose la question fondamentale de qui est-ce qu'on emmène. Il faut faire passer l'heure du choix.
Mais nous vivons là-dedans tout le temps, tout le temps. Même chez les enfants choisissent entre... Ils aiment autant leurs enfants, mais ils ont toujours peut-être... Et vous, souvenez-vous de ce passage absolument extraordinaire dans 1984 de George Orwell, où cette maman qui avait une fille et un garçon, et qui... elle donnait tout au garçon, et elle a laissé mourir sa fille, donc elle la voyait mourir. Et quand elle avait suffisamment à manger, elle donnait aux deux. Mais on était dans un pays complètement détruit par le communisme, il n'y a rien à manger, les pénuries partout. Donc quand elle arrivait à trouver un bout de pain, elle le donnait en cachette au garçon, et elle l'a laissé... Et voilà. Et donc, on est constamment dans ces choix cornéliens terribles. Mais il faut choisir.
Justement,
à qui donner un travail, à qui...
Justement, le choix pour vous, comment il peut s'opérer ? Parce que imaginons qu'on doive couper l'humanité en deux pour en sauver une partie et laisser l'autre sur une planète qui va être qui va se détruire. Les critères de choix sont lesquels ? C'est l'argent, c'est l'intelligence, c'est la force physique, c'est les garçons, les filles, c'est les mélanges.
Si vous adressez à des religieux, évidemment, ils vont choisir en fonction de leur religion. Ce que leur religion
Mais j'ai cru comprendre que vous aviez envie de la mettre de côté, la religion.
Donc, l'idée, c'est évidemment donc ce petit trio là de Paolo, Jésus et Samuel, et ils s'interrogent déjà, eux, à leur niveau. Et puis, ils disent, c'était tellement, ça leur paraissait tellement compliqué, qu'ils disent, il vaut mieux remettre ça aux États. On va donner ça au gouvernement. Et puis après, ils disent, non, on va pas, ils vont jamais nous croire. On ne va pas leur dire, on a eu un rêve, une lumière, J-780. Bon, donc, c'est pas possible.
Même les services secrets ne le savent pas, ça.
Oui, voilà, même les services secrets, maintenant, ils commencent à... Quand le groupe, évidemment, ils commencent à se douter qu'il y a quelque chose. Ils enquêtent, la CIA, les services secrets français. Ils commencent à se dire, il se passe des choses, là. Mais quoi? Mais ils savent pas. Après, ils se disent, mais nous, on est des savants. Hein. Paolo est un mathématicien, Jason est un ingénieur, Samuel est un écolo. Hein. Et ils se disent, on va définir les critères nous-mêmes. Puisque sur 8 milliards, on doit en choisir 4, on va faire une réduction de la... C'est-à-dire, on va diviser tout par deux, puisque 8 milliards, on divise 4. Donc, les Français, vous êtes 60 millions, donc on en prend 30. Et on dit, et 30, mais comment? 15 millions d'hommes, 15 millions de femmes, voilà. Après, on se dit, il faut peut-être un peu... peut-être qu'on va prendre seulement ceux qui sont bien instruits, parce que là où on va aller, il vaut mieux être instruit. Et ainsi de suite. Donc, ils construisent une critériologie comme ça, mais en s'amusant, quoi. Enfin, pas en s'amusant, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, ainsi de suite. Et après, à un moment donné, ils disent, peut-être qu'il vaut mieux s'adresser aux religieux, quoi. Donc, j'invente un stratagème pour mettre autour de la table des religieux, puis on leur pose le problème. Et donc, chacun choisit à sa manière. Donc, le chrétien, le juif, le musulman, le tibétain, voilà, et ainsi de suite.
Vous les avez tous convoqués, là.
Mais en fait, ils tombent sur le problème matériel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est 3 individus. Bon, ensuite, ils finissent par en trouver à peu près 70, dont le pape serait membre de cette... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Nous, la fusée, elle est où? Le vaisseau, il est où? Et comment faire? Comment embarquer 4 milliards d'êtres humains? Comment on va les sortir? Ou les rassembler où? Ils se posent des problèmes de logistique insolubles. Même si on prend tous les États aujourd'hui, qu'on leur donne, c'est insoluble. On n'a pas assez d'avions pour transporter 4 milliards d'êtres humains en moins de 780 jours. Déjà, eux, ils ont dépensé 700 jours à réfléchir. Il ne reste plus que 80 jours. Elle est où, la fusée? Et où trouver 25 millions d'avions pour aller rassembler? Et comment les sortir de chez eux, de la maison, pour lui dire « tu es l'élu ». Parce que j'ai utilisé tout le long du livre les termes religieux. Donc, eux, c'est les appelés. Donc, Paolo et compagnie, c'est les appelés. C'est parce que cette entité s'est adressée à eux directement. Donc, ils sont appelés. Et eux, ils vont chercher les élus. Ils vont élire c'est très compliqué. Et donc, je ne vous dis pas plus, parce que sinon... intérêt de lire le livre.
Alors, je voulais vous remercier, parce que cette histoire m'a rappelé une vieille histoire que les Auvergnats connaissent tous, et je me suis replongé dans l'histoire de Raël, qui, lui aussi, l'est lu. Vous le connaissez?
J'en parle beaucoup. Et d'ailleurs, les gens de la CIA, le FBI, ils pensaient que Paolo et machin étaient des Raéliens.
Des Raéliens, voilà. Donc lui, c'est bien l'élu. Hein. Claude Vorillon, 1973, sur le puits de la Sola, qui, finalement, lui aussi, il voit cet
objet. Oui, lui, voilà.
Mais lui, il a quand même fait le voyage, et plusieurs fois.
Oui, c'est ça.
Et donc, maintenant, il porte la bonne nouvelle. Donc, je vous conseille d'aller sur les archives de l'INA. Vous verrez, il y a des choses formidables sur le Raël en question, qui fut un moment patron de presse, puisqu'il avait monté un journal sur le rallye automobile. Et puis il a essayé aussi d'être un chanteur dans le genre.
Au départ, il était chanteur.
Oui, hein. Enfin, il a fait
coureur d'automobile.
Oui, je crois qu'il a fait un titre parce qu'il était passionné par Jacques Brel, me semble-t-il. Donc merci parce que grâce à vous, je me suis replongé dans l'histoire de Raël. Une histoire est formidable. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs Netflix a fait une série sur lui il y a pas très 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 longtemps. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est évidemment un sujet quand même pour le moins sérieux, mais qui est toujours écrit avec cette facilité que vous avez pour casser les gens, pour tacler, pour finalement dire des choses qu'on a... Parfois, lecteurs, ça nous donne du peps, parce qu'on avait envie de les voir, de les lire. Notamment l'éducation. Il y a des choses...
Ah oui, non.
Voilà, parce que c'est la femme de Paolo qui est enseignante,
ouais, et qui n'a absolument plus l'éducation nationale. L'école française, comme on dit... On tape sur l'école française, mais c'est partout. Hein. Sauf peut-être Singapour. Singapour, c'est les champions numéro mondiaux. Hein. Ils ont 20 sur 20 dans tous les domaines. C'est la meilleure école du monde. Mais aussi les Japonais, bien qu'ils épuisent leurs enfants dans les études et ils se suicident tous. Une fois qu'ils ont fini leurs études, ils se suicident. Donc ça vaut pas le coup. Il vaut mieux rester... vivant et ignorant et vivant que instruit et mort. Mais bon, mais c'est vrai que la France est dans l'école est absolument sinistrée. Mais ça a été très rapide, hein, parce que l'école française a été pendant très très longtemps l'une des meilleures du monde. Les meilleures du monde, alors, comme les mathématiques. Les mathématiques françaises, il n'y a rien de meilleur. Maintenant, elle est dernière. La France est dernière. Dans l'OCDE, elle est dernière, battue par tout le monde, là, pour le truc, le machin, l'Inde. Parce que là, pendant très longtemps, on a méprisé les mathématiques. Et donc, tous les matheux sont partis. Ils sont aux États-Unis et ailleurs. Donc l'école est sinistrée. Et puis elle est non, sinistrée pour les mauvais salaires, les taux trop bas, enfin franchement. Le salaire allemand, pour n'importe qui, c'est exactement le double du salaire français. Voilà, le double. La Norvège, c'est le triple. Un prof, il s'est fait 2000 euros. Il va enseigner là à côté, au Danemark, en Norvège, c'est 6000 euros. Bon, d'accord, en Allemagne, c'est 4 000 euros. En Suisse, c'est 5 000 euros. Vous voyez la différence? Comment voulez-vous attirer les meilleurs? Donc, bon, beaucoup d'enseignants excellents, ils vont, mais tous, c'est un sacrifice pour eux. Donc, on se sacrifie jusqu'à quand? Il y a ça, et puis l'idéologie s'est emparée de l'école. Voilà. Notamment, quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a fait de l'école une succursale du parti. Donc là, bon, c'est une erreur colossale. Hein. C'est très difficile à rattraper maintenant, vraiment. D'où l'exode vers les entreprises, des écoles privées, mais qui peut se payer cela?
Quel regard vous portez sur une affaire comme il y a eu récemment où un directeur de collège a dû s'effacer, démissionner plutôt d'imposer cette idée de la laïcité?
À cause de ça, d'abord, les enseignants sont déconsidérés, alors que c'est les enseignants et les médecins, c'est quand même le top normalement dans la hiérarchie. C'est eux qui font la reproduction de qualité de la société. Donc c'est les plusieurs. Un médecin n'arrive pas à gagner quand ils sont connus, les professeurs, tout ça, évidemment, ils touchent très bien. Mais un médecin de quartier, il a à peine le SMIC. Hein. Les enseignants, ils sont à peine au-dessus du SMIC. Et donc, il faut tout refaire. Hein.
Et quand on parle d'éducation, il y a l'école, bien entendu, mais il y a aussi l'université. Là, vous n'êtes pas tendre du tout, parce que Paolo est un universitaire, mais il est super mal à l'aise dans
ma propre expérience, quand j'ai commencé à enseigner, d'abord, j'ai commencé à enseigner par les maths à l'école polytechnique. J'arrive, tout content, première leçon. Puis je voyais un silence sidéral dans la salle. Et bon, je continue. Après deuxième, troisième séance, je comprends que moi, j'ai repris le programme que j'ai reçu, moi, quand j'ai fait, en première année, mes études. J'ai rien changé. Et en fait, ça avait tellement régressé. Alors j'ai dit, bon, on va peut-être repartir à partir de la matelle terminale. Mais là aussi, il me regardait comme ça, de quoi il parle, ce type-là. Ensuite, j'ai descendu la première et j'ai dit, j'arrête là. Je veux bien repartir faire du rattrapage à partir de la première, mais je ne vais pas retourner à la sixième. Et je suis parti voir le directeur et il me dit, voilà, c'est comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'école algérienne était, à l'époque où l'école française était formidable, l'école algérienne était encore meilleure. C'était l'époque de Camus, prix Nobel de littérature, Cohen, machin, prix Nobel de physique, des sommités. Le lycée Bugeaud d'Alger était classé au niveau de Louis le Grand. C'est vous dire. Hein. C'était vraiment très... Bon, l'indépendance arrive, on continue sur la lancée. Évidemment, on a formé nos premiers enseignants dans les meilleures écoles. On ne mettait pas nos enfants, on ne formait pas nos profs n'importe où. C'est la Sorbonne, les machins, les trucs. Hein. On n'allait pas n'importe où. Hein. Et on a continué sur cette lancée très... Et après, ben voilà, arrive l'islamisation, l'arabisation. Alors, c'est le parachute, hein. Voilà, enfin, c'est la chute sans parachute. On est parti de très haut, voûte, on est arrivé, ben, on a perdu la langue française qu'on maîtrisait très bien, la culture française qu'on maîtrisait très bien, on l'a perdue. Et puis le socialisme communiste à la soviétique, les pénuries, les trucs, et on dégringolait. Je me dis, moi, je ne vais pas enseigner là-dedans, c'est pas possible. Je suis parti voir le directeur. Il me dit, c'est comme ça, hein, donc il faut faire ce que tu peux. Donc je me suis beaucoup dépensé. Dans la classe, sur les 30, j'ai pu en rattraper un ou deux qui avaient déjà un don. Donc c'est vraiment terrible. Hein. Et voilà.
Est-ce que je peux me permettre de lire un tout petit extrait de votre livre ? Alors, c'est justement à propos de l'université. Je suis obligé d'enlever mes lunettes parce que je n'y vois plus rien. Parce qu'il est vital de toujours se remuer pour s'empêcher de mourir de sclérose, j'ai raconté notre histoire à quelques collègues de l'université. Ils l'ont trouvé plutôt drôle. Dans le plutôt, il y avait de l'antiphrase. Il voulait dire que j'étais un drôle de gars et que j'avais pris l'asymptote des nuls. Les maths, c'est le seul langage qu'ils connaissent. Pour une belle formule, ils tueraient père et mère, mais ils ne font rien pour la chercher. Ils espèrent le trouver par miracle pour entrer par surprise dans l'histoire à la manière de Newton révélé par une pomme tombée de l'arbre, d'Archimède hurlant son Eureka. Des gens foutres, des crétins finis. Vous êtes quand même un peu dur.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a plein de passages comme ça dans ce livre. J'ai envie de dire truculent. Ouais. Ça vous va ou pas, hein, c'est ouais. Comme ça que vous l'avez voulu.
Quand on raconte la fin du monde, il faut quand même donner un peu d'espoir. Quoi. Sinon, Noir sur noir, c'est pas possible.
On ne voit plus rien. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi votre manière d'appréhender le wokisme, qui est un truc qui se répand à l'université. Ça vous fait peur, ça? Ou ça vous agace,
non,
ou ça vous fait rire, je ne sais pas.
Charitable envers l'autre, mais ça, je trouve ça très bien.
Oui.
Ce côté-là, wokiste, oui, pourquoi pas. Je dirais même qu'il faut encourager cela. Mais les wokistes américains ne sont pas sur ce schéma-là. Ils sont sur le fait qu'ils détruisent votre identité. Voilà. L'identité, c'est quoi ? Évidemment, c'est nos gènes et ce que nos gènes portent, mais c'est notre culture, c'est notre langue, c'est notre histoire. Si on désacralise tout, allez, Vercingétorix, hop, c'est là le truc, c'était un salaud, les machins, il ne reste plus rien. Et vous allez vous accrocher à quoi, après ? Comment construire une nation ? Comment faire corps commun ? Voilà. Ils continuent, donc ils veulent détruire. Vous vous rendez compte, là, l'île de Ré, là, ils ont voulu la statue de Saint-Michel, ils veulent. Ils détruisent toutes les statues, tous les machins, ils brûlent des livres maintenant. Parce que, soi-disant écrit par un raciste, par. On a sauvé Voltaire de justesse. Moi, j'ai participé à ces petits grenouillages. Voltaire, évidemment, ces dernières années, on a sorti ce que Voltaire a dit de l'islam et de. D'abord, il a commencé à dire l'islam, c'est du réchauffé du judaïsme, donc c'est pas intéressant. Il vaut mieux manger le plat lui-même que du réchauffé. Et puis des tas de trucs comme ça, très très, très méchants contre l'islam. Mais à la fin de sa vie, il a changé. Alors, donc, sur cette base-là, les wokistes français, il faut dévoltairiser. Voltaire, il faut tout détruire, ses statues devant la Sorbonne, tout. Et puis, donc, on a grenouillé avec les uns et les autres, on a dit, ouais, mais vous savez pas ce que Voltaire a dit à la fin de sa vie. Il a dit, ah, oh, c'est dommage que les musulmans aient été vaincus par Charles Martel à Poitiers, nous serions aujourd'hui la plus grande démocratie du monde. Alors du coup, voilà, pain béni, les wokistes ont changé de point de vue sur Voltaire, et maintenant il le cite en permanence, donc il faut aller chercher pour sauver maintenant des petites choses, enfin des grandes choses, il faut aller chercher la contre-truc, mais c'est vrai, beaucoup, beaucoup effectivement d'intellectuels avaient... on a un peu de temps ?
Oui, oui, oui.
Je vais vous raconter un peu les problèmes avec... alors, les wokistes... et j'aurais pu choisir les hindous. Ben, voilà, on va défendre les hindous. Parce que c'est quand même la société la plus injuste du monde. C'est le seul pays au monde où la population est classée en caste. Vous vous rendez compte, la caste des comment on les appelle,
les
intouchables. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça existe? Et ils sont des millions, des dizaines de millions à vivre ce statut. Alors les brahmanes, là-bas en haut, tout est à eux. Ils peuvent tout se permettre. Les suivants, c'est les guerriers. Encore, bon, ils ont encore quelques considérations. Ensuite, c'est les ouvriers, les manœuvres, encore un peu. Puis là, ensemble, c'est des trucs... moi, je dis aux wokistes, intéressez-vous à l'Inde. Il y a matière. Bon, ils ont choisi l'islam pour des raisons... parce qu'en réalité... je vais vous expliquer un peu. C'est pour ça que c'est un peu long. Il y a... dans les années 1900, voilà, au début du XXe siècle, des orientalistes sont passés là-bas en Afghanistan. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a islam, on tourne, on arrive à l'Afghanistan. Parce que tout est parti de là. Il y avait un imam très cultivé, etc. Alors, donc un orientaliste passe dans le coin et puis... Les gens lui disent, oui, la mosquée, l'imam est un savant, donc il va, il discute avec lui, blablabla, blablabla, blablabla. Et quand il termine son travail, il enregistre plein de trucs, il rentre à Paris et il dit, j'ai trouvé en Afghanistan le Voltaire musulman. Donc il raconte ça, et curiosité des orientalistes, ils sont très curieux, et ben, il l'invite, donc il le ramène. Il le ramène à Paris, et grâce donc à ces orientalistes-là, il est auditionné, écouté à l'Institut, à la Sorbonne, à l'Assemblée nationale, à droite, à gauche, il est reçu par les plus grands de machin, ensuite Berlin, ensuite Londres, ensuite Bruxelles, il est devenu la coqueluche de l'Europe. Il s'appelle Jamaluddin, vous regarderez, Al-Afghani. Jamaluddin, c'est un prénom. Jamaluddin, c'est la beauté de la religion. C'est un mot arabe. Jamal, c'est la beauté. Din, c'est la religion. C'est la beauté de la religion, c'est son nom. La beauté de la religion. Al-Afghani, l'Afghan. Il est reçu, et là, ça a été le grand amour de l'Europe, de toute l'Europe, de l'islam, avait été très critiqué donc dans la période de Voltaire avant tout ça, la barbarie, ces trucs, etc. Et du coup, c'était vraiment formidable. Le seul qui a eu, il a un peu tiqué, il dit, écoutez, il faut peut-être réservons notre jugement, et qui a fait un discours, vous le trouverez sur Internet, Ernest Renan. Ernest Renaud, évidemment, aujourd'hui, il est honni des wokistes parce qu'effectivement, il a traité l'islam de tous les noms en disant c'est, il n'y a pas plus barbare que ça, et, etc., etc. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que autour de la Afrani, une aura extraordinaire, ça a attiré de tous les pays musulmans ceux qui veulent des disciples. Donc, du coup, il s'est retrouvé entouré de plein de jeunes venant d'Égypte, venant du Soudan, les grands pays musulmans. Et donc, le maître, et donc ils se sont mis autour de lui comme disciples. Et ensuite, ces gens-là sont retournés chez eux, et c'est eux qui ont créé tous ces courants. Un de ses disciples a créé, égyptien, en 1928, les frères musulmans, l'association des frères musulmans, que aujourd'hui tout le monde dénonce. D'autres, au contraire, parce que ça s'est passé à Paris, en Europe occidentale, ils ont pris l'islam du bon côté, et ils ont ajouté ce que la civilisation européenne, chrétienne, avait de bon, les Lumières. Donc ils ont additionné islam, comme ça, très machin, avec les Lumières, et ils ont créé l'islam des Lumières. C'est un courant qui existe. Alors évidemment, c'est quelques personnes. Et d'ailleurs, le maître de ce courant en France est un Algérien. Mohamed Harkoun, c'est le grand machin, un personnage extraordinaire, super anthropologue, enfin bref, il est tout, mais il est mort. D'autres, c'est comme Malek Chebel, que vous connaissez certainement tous, c'est pareil, mais il est mort. Abdelwahab Medeb, qui a animé pendant des années sur France Culture l'islam des Lumières, ben, il est mort lui aussi. Donc il n'y a plus rien. Les représentants de cet islam des Lumières, il n'y en a plus. Il reste un jeune, Rachid Benzine, qui est le disciple de Mohamed Harkoun. Il reste, bon, mais il n'a pas l'envergure des maîtres. Mais quand même, il fait du bon travail. Mais il y a ceux qui ont trituré ça dans tous les sens. C'est les salafistes, par exemple. On va retourner au temps du prophète et on supprime. C'est un peu comme les Amish aux États-Unis. Donc on coupe le courant, on vit comme ils vivaient au XVIIIe siècle. Et donc c'est ce courant qui aujourd'hui est très dangereux, hein, parce qu'ils sont là dans les mosquées. Donc à la fois ils se servent d'un islam sympathique, l'islam des origines, enjolivé, et puis ils ajoutent leur petit poison par derrière. Et puis il y a cet islam violent des djihadistes, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda, c'est Dieu n'a pas à ne discuter avec personne. On se met à genoux, sinon ils coupent la tête. Voilà, leur discours, c'est que ça. Et cela a pénétré dans les écoles, soutenu par les wokistes qui disent, après tout, même un djihadiste a le droit d'être djihadiste, pourquoi pas? Donc il ne commet pas un crime. Et puis on dit, oui, mais quand même, il commet des crimes. Oui, mais il dit, mais nous aussi, on a commis des crimes, la colonisation, alors on est dans nous aussi. Et c'est ça qui est en train de détruire la cohérence de la société. Et donc du coup, maintenant, les Français ont honte. Ou les Allemands, ou les Belges encore plus, ont honte de ce qu'ils sont. On a honte d'être français, parce qu'à chaque fois, on vous sort, la colonisation, les exterminations, les enfumades, et ainsi de suite. Voilà.
Je reviens quelques instants sur cette notion de wokisme. Paolo est enseignant. Quand il s'en va aux États-Unis pour préparer le J-780, il revient et il est à la limite de se faire virer de l'université parce que et finalement il écrit un papier dans un média pour les étudiants. Étudiants, et là il est tellement wokiste à fond que finalement il est totalement réhabilité, mais ça fait quand même peur un petit peu.
C'est comme chez les Chinois quand les repentis, il faut qu'ils vraiment les traîtres, les machins, donc on le passe à, comment on appelle ça, le reprogramme, quoi.
Oui.
le reconditionnement, alors là, il est vraiment, vive la Chine, il trouve tout mignon. Et là, donc, pour se faire, parce qu'il se met en situation de prédicateur, il annonce. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est presque un prophète. Il cherche à convaincre autour de lui. Mais ils sont tellement différents qu'il essaie de jouer leur jeu. Parce qu'eux, ils l'avaient éliminé pour des tas de raisons. Donc, et il faut qu'il regagne ses galons de wokiste. Donc il se montre plus wokiste que les wokistes. Et donc du coup, il est réintégré dans la... Il dit, maintenant que je suis à l'intérieur, je peux moi aussi, petit à petit, faire... voilà quoi.
Voilà, donc je vous conseille l'article dans le site internet des étudiants. Boualem Sansal, vous êtes sûr que c'est la technologie qui va nous sauver?
Mais quoi d'autre?
Ah, je ne sais pas.
Quoi d'autre?
J'aimerais bien avoir des réponses, c'est pour ça que je vous la pose.
Les religions, l'humanité a créé, alors au dernier recensement, je crois 20 000 religions depuis. Et il en meurt à peu près pendant un certain temps, et il mourait jusqu'à 1 000 religions par an. En islam, il se crée des courants, quasiment un par jour. Les Ahmadis, alors souvent, c'est très étonnant. Tout ce qui est excessif vient de cette région très particulière qui est à cheval entre l'Iran et l'Afghanistan. Donc je vous disais tout à l'heure, tout vient d'Afghanistan. Mais on peut aussi dire tout vient d'Iran. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une région qui est moitié là, qu'on appelle le Khorasan. Le Khorasan a été depuis toujours la fièvre religieuse dans cette région incroyable. Le zoroastrisme, elle est là. Le mazdéisme est là. Les nouveaux islamologues, maintenant, beaucoup d'arguments pour dire que l'islam n'est pas né à la Mecque. Il est né dans ces... Et l'explication est très simple, c'est que tous les savants musulmans, qui ont écrit les hadiths, les Tabari, les machins, les musulmans, et qui ont écrit les hadiths, et même le Coran, comme Ibn Hisham et tout ça, sont des personnes de cette région-là. Vous regardez dans l'islam, tous les noms que vous entendez ne sont pas musulmans, ne sont pas arabes. Ils viennent de cette religion. Et même le christianisme serait né là. C'est une région très particulière. Et donc, ils continuent sur leur lancée. Ils ont inventé une religion qui... Alors là, je n'arrête pas de le dire à tout le monde, faites très attention. Une secte qui pousse à une vitesse extraordinaire, qui est née là-bas, le takfirisme. Vous avez tous entendu certainement ce nom, le takfirisme. Le takfirisme veut dire quoi? C'est l'excommunication. Voilà, c'est-à-dire que ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre et on vous tue. Voilà, c'est aussi simple. Cette doctrine, c'est ça. Mais il y a aussi les Ahmadites et les machins, ils sont créés tout, quasiment. Ceci dit aussi, beaucoup de gens croient que dans le christianisme et le judaïsme, prophète était une profession. Chaque roi avait ses prophètes. Donc il y a les grands prophètes qui sont effectivement, eux sont venus avec l'idée que Dieu leur a parlé, mais ils transmettaient la comment on appelle ça, le don de prophétie passé par héritage. Vous connaissez évidemment tous l'histoire de Ésaü et Jacob. Jacob, évidemment, c'est le. Lui-même n'est pas un prophète, c'était le fils de Isaac. Isaac n'est pas prophète. Isaac a hérité du don de la prophétie d'Abraham. Et son fils Isaac transmet le don de prophétie à son fils Jacob, qui plus tard s'appellera Israël. Et de là viendront les 12 tribus juives, les 12 tribus perdues. Et donc ça se transmettait. Et comment Jacob est devenu prophète? Jacob et Ésaïe sont les enfants d'Isaac, jumeaux. Ils sont nés en même temps. Mais c'est Isaïe qui est sorti le premier du ventre de la maman. Donc la prophétie lui revenait à lui. Et puis, intrigue des mamans, parce qu'ils n'ont pas, je sais pas quoi, enfin, quelque chose qui est différent, qui les différencie. Les femmes de la tribu intriguent pour dire, ça doit être Jacob, parce que Esaü, c'est un violent, c'est pas bien, Jacob. Et donc, il faut voler la prophétie à Esaü. Donc, les femmes intriguent, il va à la chasse, et le soir, il revient très fatigué, et il dit aux bonnes femmes, j'ai faim, donnez-moi à manger. Les femmes lui disent, non, tu donnes à manger si tu cèdes la prophétie à Jacob. Et elle lui amène un plat de lentilles. Nous, trahir pour un plat de lentilles. D'où vient l'expression ? Elle vient de là. Donc elle lui fait un plat de lentilles. Et puis là, il était tout plein comme ça. Il dit, bon, d'accord. Et voilà, trahir pour un plat de lentilles vient de là.
Bon, voilà. Donc on ne compte pas sur la religion. On ne compte pas sur la religion pour sauver le monde. Est-ce qu'on peut compter
sur la religion? Peut-on compter sur les politiques? Est-ce que vous croyez franchement que c'est les Amish ou que c'est les musulmans ou que c'est les bouddhistes ou les taoïstes qui vont sauver l'humanité? Surtout que le danger, il a deux origines. Une source interne, les volcans, ce que vous voulez, mais une origine extérieur. C'est un caillou qui va nous percuter, comme c'est déjà arrivé des milliers de fois. C'est des extraterrestres. C'est... Donc voilà, le danger.
Vous y croyez aux extraterrestres ?
Ah oui, moi j'y crois. Hein. J'y crois. Enfin, mais nous-mêmes, nous sommes des extraterrestres. Le jour où des gens venant de l'espace vont nous voir, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais pourquoi on s'appelle nous extraterrestres ? Mais c'est tout simplement parce qu'on habite la Terre. Si on habitait Mars, on dirait que nous sommes des Martiens. Donc vous voyez bien que c'est un mot qui n'a aucun sens. Oui. Nous sommes tous les extraterrestres de quelqu'un. Pour nous, un martien, c'est un extraterrestre. Non, c'est un martien. Il vous dira, non, je ne suis pas... J'habite pas la Terre pour que vous m'appeliez extraterrestre. J'habite Mars, donc je suis martien.
Mais on ne dit pas des extra-martiens.
C'est juste des mots. Et quand on regarde l'histoire longue, il y a des moments où, effectivement, Babylone, mais ça, c'est hyper, hyper documenté. Les Babyloniens... Un jour, on vu arriver des fusées, des vaisseaux, qui ont stationné au-dessus de Babylone pendant très longtemps. Et ils avaient des contacts avec les Babyloniens. Et ils se sont présentés, enfin, sous leur nom, ils ont dit, ils s'appelaient les Anunnaki. Vous regardez dans Internet, les Anunnaki venant de la planète Niburi. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ils ont appris beaucoup de choses aux Babyloniens, et notamment le développement de l'écriture, etc., etc. Donc on a un savoir qui vient de... Bah, qu'il soit religieux, quoi, il vient du ciel, des cieux ou des extraterrestres. Mmh. Mais il est extérieur à nous.
Je suis très étonné que vous disiez tout ça par rapport au fait que vous êtes un scientifique et qu'il n'y a pas plus pragmatique qu'un scientifique. J'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps un astrophysicien.
Moi, je suis dans la filière des gentilshommes du 19e siècle, c'est-à-dire de tout.
Oui, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Bibring. C'est lui qui a fait atterrir la sonde Rosetta sur un astéroïde.
Ah, oui, oui.
Alors lui, il vient de sortir un livre pour dire qu'en gros, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une autre vie dans notre système et tout ça, parce que tout ça est corrélé en fait à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un alignement de planètes, ou en tout cas un certain nombre de facteurs qui se sont alignés à un instant T et que ça ne pourra plus jamais se reproduire.
Non,
donc non, lui balaye complètement.
Oui,
donc
non, franchement, oui, mais c'est une fou. On a abandonné cela depuis très très longtemps.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'il prenne sa retraite,
ouais,
c'est
ouais,
ça
il faut, franchement, ouais. Il y a intérêt. Hein.
Bon, alors, si la religion ne peut rien faire, est-ce que la politique
alors,
peut faire quelque
chose? Alors, il y a la religion.
Oui, la politique, on s'est cuit, on est bien d'accord.
Ce qui a permis aux hommes de vivre, ce sont des narratifs. Et les premiers narratifs, c'était d'abord des magiciens. Ils expliquaient... Est-ce que vous savez qu'il a fallu des milliers, des dizaines de milliers d'années pour savoir d'où venaient les enfants? On ne savait pas, parce qu'à l'époque, une singe femelle... et se rencontrer un singe, ils faisaient leurs petits trucs, et puis ils se séparent, ça durait 30 secondes. Et puis, 9 mois après, la femelle accouche de quelque chose. Il a fallu des siècles et des millénaires pour faire le lien entre ceci et cela. Et donc, ce sont les magiciens qui ont expliqué. Et donc, ils disaient, « Ah, moi, je me souviens que tu as eu mal et que ça bougeait dans ton ventre. C'était le jour où la foudre frappait le chêne. » Donc, du coup, le chêne est devenu dieu de la fertilité. Donc, on a inventé des petites... Mais c'était magique. Mais on dit, mais pourquoi ? Parce que la foudre a frappé, ou parce que ce jour-là, tu es tombé dans la rivière, et quand tu es sorti, tu avais mal. Donc, on a cherché des explications de ce type. Ce sont les sorciers qui construisaient les narratifs pour apaiser les gens. Parce que quel est l'intérêt de quoi ? Ben, c'est parce qu'on veut comprendre. Petit à petit, l'intelligence commençait à naître. Dans la tête des gens, ils veulent savoir. Donc le sorcier trouvait intéressant de leur inventer des histoires, ce qui lui permettait de manger à l'œil. Ben, les autres le nourrissaient. Voilà. Après, ça a été les religieux. Et puis, bon, on voit bien que ça s'effondre. On a du mal, effectivement, à... on accepte certaines choses, mais pas tout. Et puis après, ça a été la politique. C'est une politique, c'est de droit divin, c'est le roi qui... C'est lui qui donne le narratif. Et ça fonctionne avec adossé un système de coercition. C'est-à-dire que si on ne croit pas à ce que dit le roi, on est tué. Hein. Et puis voilà, tous les narratifs se sont effondrés. Hein. En revanche, la religion a toujours, elle, continué à avancer. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul machin qui démontre. C'est-à-dire que si je vous dis quelque chose, on peut le démontrer.
Parce que c'est aussi le cas des scientifiques.
Oui, c'est ça. C'est la science. Donc il dit, si je vous dis ceci, je vous le démontre. Voilà. Et donc on l'a... Et là, le paradigme, notre cerveau ne fonctionne plus depuis de la même manière. Donc on accorde beaucoup d'importance à l'instrumentation qui permet de dire ceci est faux ou vrai à 50% ou. Donc, voilà, le jour où, si, je sais pas, des extraterrestres viennent et tout ça, c'est les savants qui vont examiner ça en détail, et ils pourraient, par exemple, nous dire, non, c'est une illusion. Comme quelquefois, comme les fantômes, des ombres comme ça, on dit, ah, j'ai vu un fantôme. Donc, ils peuvent ensuite démontrer que c'est faux. Comme ils pourraient démontrer que c'est vrai. Regardez l'histoire de la grotte de Platon. Platon, c'est un exercice mental, hein. Il imagine des êtres humains qui vivent dans une grotte. Et l'ouverture de la grotte, elle est dans leur dos. Hein. Donc eux, ce qu'ils voient sur le mur, c'est quand les gens qui vivent, le soleil est derrière, donc ils projettent nos ombres sur... Donc pour eux, le monde, c'est ça, c'est ce qu'ils voient. Au fond de la grotte. Et ils n'en connaissent pas d'autres. Ils ne connaissent pas d'autres réalités que celle-là. Et puis, donc, Platon imagine que maintenant, on va les sortir. Quelle est la vérité pour eux ? Parce que là, ce qu'ils voyaient, c'était mon ombre, votre ombre. Mais pour lui, l'ombre est la réalité. C'est pas vous. Même si elle a la même forme. Je vous vois là-bas, je vois votre ombre. Mais voilà, la vérité pour eux, c'était l'ombre. Et donc, ça, les savants peuvent le démontrer. On peut vous démontrer que cette image est un hologramme créé par des diffusions de lumière, comme ça. Et ils vont reconstituer cette expérience. Et petit à petit, mais ils sont aussi face à des cas où on n'a pas d'instrumentation pour. Alors on est dans l'interrogation. Alors on est là, c'est un phénomène qu'on ne sait pas expliquer encore.
Voilà. Vous avez prononcé un mot tout à l'heure important, puis ça sera ma dernière question avant de préparer vos questions au vous public. Intelligence, et j'ai envie de dire intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine, qui peut nous aider, ça ?
Moi, je vois pas pourquoi on l'appelle artificielle. Mais dans notre cerveau, c'est quoi ? L'ordinateur, c'est des... On va dire, pour faire simple. Hein. Oui. C'est des lampes allumées ou éteintes. Voilà, c'est ça. Donc un ordinateur, c'est ça. C'est, on met des lampes, comme ça. Et puis, alors si j'en mets 8, donc octet, un octet, 8. Je conviens que cette lampe, la première lampe allumée, la deuxième éteinte, jusqu'à la huitième, je vais dire, ça représente le nombre 1. Et 1, éteint, allumé, éteint, c'est la lettre 1. Et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que si je mets toute une truc, là, un empilement de lampes comme ça, 8, et là je vais, ben voilà, A, B, C, D, E, donc avec des lampes, je crée un langage. C'est aussi simple que ça, un ordinateur, ne cherchez pas plus loin, hein. C'est que ça. L'intelligence artificielle ajoute quelque chose. Elle dit, mais, parce que les ordinateurs que nous utilisons, ou téléphones, tout ça, c'est quand même nous qui le programmons. Mais encore, vous l'avez tous remarqué avec vos portables, avec votre portable, de temps en temps, il n'a pas besoin de nous. Si vous tapez maison, M-A-I-2-S-O-L, il corrige automatiquement. Donc déjà, voilà, et ainsi de suite. Et il y a quand on tape, vraiment, il fait tout un travail que vous ne voyez pas qui est en arrière-plan. Parce que, voilà. Et on se dit, on peut peut-être aller plus loin et on va... il va écrire lui-même. Voilà. Moi, je vais juste lui dire, je vais juste lui poser le problème et puis il va se... Et c'est aussi très simple. Si je dis je, et puis je vais vous demander quel est le mot suivant. Ben vous allez dire je suis. Vous allez dire je pars. Et puis on va faire une statistique. 80% ont dit je suis. Et d'autres. Donc la probabilité, finalement, ceux qui ont dit je suis sont plus proches d'une certaine réalité que ceux qui ont dit je vais, je dors, je. Bon, donc. Je suis. On va dire, quel est le troisième mot probable ? Et alors, l'ordinateur a emmagasiné toute la langue française, tous les textes, tous les livres, tous les de mathématiciens, d'historiens, et lui, il passe là-dedans. Et en fonction des lieux, en fonction des... Il va... Maintenant, on écrit... avec l'intelligence artificielle... On écrit des romans qui sont mille fois meilleurs que, peut-être pas le mien, mais de beaucoup qui sont là. Bon, il y a encore des faiblesses. Je ne sais pas si vous avez suivi le duel entre Raphaël Antoven et un ordinateur. Oui. Et c'est Raphaël Antoven qui a gagné. Hein. Donc oui, c'était une dissertation.
Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des notions comme la déontologie, par exemple, qui disparaissent.
On est au tout début de là. Ouais. Mais ça va à une telle vitesse. Pourquoi ça va très vite ? Parce qu'il s'apprend lui-même, il s'auto-apprend. Donc on n'a plus besoin de lui apprendre. On a besoin de régler les problèmes techniques qui sont énormes. Parce que ça dégage, il faut qu'il soit, c'est les ordinateurs, il faut qu'il soit dans de la glace à moins de 260 degrés. Et ça, techniquement, c'est très difficile. Et l'appareillage est très compliqué, etc. Mais maintenant, l'intelligence artificielle, il faut peut-être ajouter, il se forme lui-même, mais il n'a plus besoin de nous. Parce qu'on a mis dans sa mémoire tous les livres du monde, toute la littérature, tous les machins, tout, et dans sa tête. Donc lui, parfois, il cherche par analogie. Et il vous fait des phrases magnifiques, une histoire. Un mot, il vous construit une histoire. Et en 30 secondes, hein, il va pas mettre comme moi, j'ai mis une année pour écrire ça.
Alors, il n'empêche que vous restez un magicien des mots. Voilà. Et avez-vous des questions à poser à ce magicien des mots ? Oui, monsieur.
Oui, alors j'aurais deux questions rapides. Dans le problème du choix, est-ce que vous avez pensé à l'arche de Noé ? Le problème du choix.
Ah oui, du choix.
Ah oui, parce que l'opération s'appelle Arche de Noé. L'opération s'appelle Arche de Noé.
Oui.
Oui. Oui. Donc la référence y est bien là.
Le deuxième, c'est autour de Gallimard. Vous avez parlé de Camus et Bourassin, de Gallimard. Deux livres viennent de paraître sur Camus. L'un intitulé « Cet homme universitaire français qui travaille aux États-Unis », qui a écrit un livre « Oublier Camus ». Et Hubert Védrine, qui vient de publier un livre « Camus, notre rempart ».
Et alors, entièrement d'accord, surtout. Alors, ces Américains, effectivement, ils veulent, comme on a voulu détruire la statue de Voltaire, donc ils veulent, Camus, c'est le colonialiste, le truc, le machin, etc. Ils l'accusent de tous les maux, mais je crois que c'est peine perdue pour eux, parce que Camus a dépassé, il est une légende maintenant, donc il a dépassé le stade. Où on peut déposer du piédestal. C'est très difficile. Hein. Camus rempart, oui, alors absolument, parce que c'est dommage qu'il soit. Il est mort trop tôt, quoi, parce qu'il avait. Il commençait à travailler sur. Le terrorisme, c'est l'absurde, c'est le cycle de l'absurde. Hein, donc pourquoi tuer les gens quand on peut peut-être ne pas être d'accord avec eux, mais on peut coopérer. Le moins et le plus peuvent très bien fonctionner ensemble, hein, donc, et donner de belles choses. Bon, c'est dommage, mais c'est vrai, donc il est quelque part notre rempart. En tout cas, c'est mon cas. Moi, de par mon histoire, je connais très très bien Camus. Ses enfants sont mes amis, j'accède à des informations qui ne sont pas encore publiques, parce que sa fille Catherine gère son père d'une manière, d'une vigilance, elle nous ouvre les choses qu'à quelques rares, mais nous sommes des amis d'enfance, donc on a été dans la même école et tout. On a besoin. Pas seulement de Camus, il faut construire des remparts. Parce qu'une pierre ne fait pas un rempart. Il en faut beaucoup. Il faut jouer dans tous les domaines. Regardez, moi je milite beaucoup sur ce plan-là. L'économie est créatrice d'inégalités, c'est incroyable. Vous prenez des gens qui vivent dans leur campagne, tranquille. Ils sont dans la ruralité, donc la notion d'économie n'existe pas. Vous venez, vous créez juste un petit atelier, vous avez créé une justice formidable, parce que vous allez donner du travail à l'un, il va avoir un revenu, et vous n'avez pas donné de travail à l'autre, pas de revenu, et donc vous créez un chômeur et un travailleur. Du coup, ensuite, un syndicat pas de ci, un syndicat de là, et le village est détruit dans la semaine. Donc, il faut faire très attention. L'économie... c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une réaction. Derrière, il faut. On a créé des riches, des pauvres, et du coup, toute une des philosophies derrière embraye, et ça devient. Il faut presque interdire à l'économie, en tous les cas, la retirer aux économistes. Ça, il faut, oui, franchement, parce que c'est leur boulot, donc ils vivent de cela. Mais c'est très, très, très dangereux.
Vraiment, j'ai peur qu'on ne soit pas dans cette hypothèse tout de suite.
Donc, dans tous les domaines, il faut faire très attention parce qu'aucune action n'est gratuite. Chacune génère une réaction, une contre-réaction, une réaction. Et puis, alors, en mathématiques, on a inventé un système qu'on essaye d'utiliser en économie. C'est comment... Je vais prendre un exemple. Voilà, vous prenez quelqu'un qui a une taille, on va dire, de 2 mètres, et il pèse 100 kilos. Et puis, vous prenez, tout le monde va mesurer leur poids et leur taille. Et comment je vais organiser cela? Vous essayez d'y réfléchir, si vous avez un moment, vous allez voir que c'est pas possible. Parce que, madame, si je la mets dans les moins de 70, peut-être qu'elle fait 80 kilos, donc elle devrait être là et là. C'est pas possible. Donc vous voyez bien qu'il est difficile de réaffecter les choses de manière intelligente. Et les mathématiciens se sont toujours posés cette question. Moi, j'ai des ensembles d'objets, de trucs. Je peux les appréhender de différentes façons, par leur poids, leur taille, leur couleur, leur matière, etc. Mais plus j'avance là-dedans, plus c'est pas possible. Donc à un moment donné, vous allez être là, là, là et là. Finalement, on est revenu à la situation hantée où tout est brouillé. Et donc les mathématiciens, pendant des siècles, ont cherché construire des discriminants qui permettent. Eh bien, on a analysé, on a inventé une branche de la statistique qu'on a appelée la théorie des composantes principales, l'analyse factorielle, voilà, des facteurs, pour les facteurs. Et ensuite, bon, on a créé aussi des. Alors, pour vous classer, eh ben, je vais inventer un critère qui est qu'on va appeler la carrure. Ben, c'est ni le poids, ni la taille. On sort carrément de ce qui nous préoccupait pour construire quelque chose qui fait synthèse. Parce qu'en ce moment, la notion de corpulence est plus évidente. Donc on va dire, monsieur est corpulent, oui, voilà, là moi je vois déjà 5 ou 6 personnes qui sont corpulentes, ils sont grands et forts. Mais voilà, 4. Et les autres, ils vont corpulence moyenne. Et donc on arrive à organiser une population. Et si moi et quel est l'intérêt? C'est que si je sais organiser, par exemple ça, en corpulent, moyennement corpulent et faiblement corpulent, si on revient au choix, la distribution par exemple de nourriture, eh ben, les corpulents, je vais leur donner 1 kilo à manger. Et les moyens, je vais leur donner 200 grammes. Et l'autre, je vais donner 50 grammes. Il n'y a pas de raison de lui donner 1 kilo, de faire une répartition à égalité. Le petit, eh ben, il va gaspiller, il va manger un peu et jeter. Et pour le corpulent, ce n'est pas assez. Donc vous voyez qu'avec les mathématiques, on construit des solutions merveilleuses. Alors, ça, j'ai pris 2 critères, mais si on a 500, comment on fait? Eh bien, c'est très compliqué, mais on le fait très. Quand la Covid est apparue, eh bien, tout de suite, on s'est trouvé devant des milliers de critères moléculaires, les trucs et tout ça, mais ça ne vous sert à rien de mesurer tous ces critères si vous n'êtes pas capable de faire des constructions qui illustrent beaucoup mieux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, sans les maths et la science, il n'y a pas moyen de sortir de. Voilà. Donc, me faites des maths.
Voilà. Alors, on avait une question. J'ai vu une main se lever. Oui, monsieur, allez-y.
Je voudrais poser la question, mais j'en profite en premier.
Oui.
Une petite au niveau de la littérature, et en particulier la littérature qui parle de l'exploration des planètes. Est-ce que vous avez des liens littéraires avec Bradbury, avec Robinson ou avec Corée qui ont travaillé sur.
Je vous assure, j'entends mal. Oui, non, oui. J'ai un problème en ce moment d'acouphène.
Problème d'oreille, voir. Côté droit en plus. Donc,
ah oui, en plus.
Chronique martienne, Bradbury, ou alors Mars, la série et la trilogie de Mars de Robinson.
Bradbury, Robinson, est-ce que ça vous parle?
Ah oui, mais comment? Évidemment.
Et Corée.
On ne peut pas s'intéresser à la science-fiction sans passer par les grands auteurs. Mais il faut savoir aussi qu'ils sont très difficiles à lire. Il y a l'histoire, évidemment, que tout le monde peut comprendre. Mais derrière, les théories qui sont sous-jacentes, elles ne sont pas très évidentes. Comment s'appelle-t-il? J'en parle d'ailleurs beaucoup.
Orwell?
Non, pas Orwell. Qui a beaucoup travaillé sur les ordinateurs. Asimov. Merci. Asimov, l'ordinateur, donc il imagine qu'avec le temps, les ordinateurs vont être très puissants, très rapides et probablement intelligents. Peut-être pas notre intelligence, parce que notre intelligence, elle est un peu construite sur de la morale aussi. Hein, donc, nous sommes intelligents sur ce qui nous paraît bien. Et pour les gens honnêtes. Hein. On est plutôt intelligent sur ce qui est bien et on est bête sur ce qui est. Face à un voyou, nous, on est tout bête, il nous roule facilement, il nous trompe facilement, alors qu'à côté, on est super intelligent. Vous voyez un peu, donc c'est lié à la morale. Et donc, il se dit, quand l'ordinateur va être puissant, à quelle morale il va... Il n'a pas de morale. La morale vient de la religion, vient de la société. C'est du consensuel, c'est des choses qu'on construit. Donc, est-ce qu'il faut mettre les ordinateurs en réseau pour qu'eux-mêmes, ils se comportent comme autant d'êtres humains comme nous, et qui se trouvent dans des confrontations et qui sont obligés d'arriver à ce que vous avez tous dans votre ordinateur, c'est les conflits. Les ordinateurs, les logiciels entrent souvent en conflit. Et ces logiciels va arbitrer le règlement des conflits entre tel logiciel. On fait passer quoi avant celui-là ou celui-là. Donc celui-là, on le met en attente, on développe... Donc ça existe déjà au niveau des ordinateurs. Hein. Donc il y a des logiciels de règlement des conflits, on construit des hiérarchies. Voilà, par exemple, si vous avez 2 plus 3 multiplié par 4 et plus 5 divisé par 2, si vous commencez par l'addition, la multiplication, vous allez trouver un résultat. Si vous commencez par la multiplication ensuite, vous allez trouver un autre résultat. Où est la vérité? Donc l'ordinateur va, à votre place, va, il y a un conflit. J'ai besoin de sortir un chiffre. Et voilà. Et donc, on est au stade où on permet aux ordinateurs de gérer les conflits en fonction de quoi? Alors on essaie de mettre des règles évidemment au départ, mais en fonction de ce que eux-mêmes, en interagissant les uns avec les autres, vont se corriger. Nous sommes tous dans des réseaux, vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière, parce que on doit à la fois mettre nos ordinateurs en réseau, et en même temps, je ne peux pas rentrer dans votre ordinateur, vous ne pouvez pas rentrer dans le mien. Vous imaginez la complexité de ces choses-là. Et puis en plus, rien n'est figé, c'est-à-dire qu'une vérité d'aujourd'hui, dans la minute qui suit, n'est plus valable. Il en faut une autre. Donc l'informatique... Alors, l'informatique, tout le temps vous entendez dire numérisation, numérisation, numérisation. Parce qu'il y a une informatique, l'ancienne, elle est analogique. C'est-à-dire, on règle les problèmes par analogie. Si là je dis 1 plus 1 égale 2, par analogie, je vais dire 2 plus 2 égale 4. Parce que je peux décomposer là, par analogie. On introduit quelques éléments, ce qu'on appelle l'axiomatique, des axiomes. C'est comme nous, une société moderne, on dit, voilà, on a un certain nombre d'axiomes. Tu ne tueras point, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu. C'est avec ces axiomes-là qu'on a construit toute notre morale. Vous voyez ? Bon. Mais avec le temps, on ajoute aussi de nouveaux axiomes. Et donc, voilà, c'est hyper compliqué, voilà.
Ça sera la conclusion. Alors, je voulais juste vous dire qu'il nous reste 780 jours avant la fin du monde. Vous la poserez en solo, monsieur. Je voudrais qu'on laisse un peu de temps pour les éventuelles dédicaces, parce qu'on pourrait écouter Boualem Sansal, notre invité du jour, pendant des heures et des heures, mais le temps tourne, malheureusement. On n'a pas trouvé le moyen de bloquer le temps encore. Voilà, donc voilà un beau sujet à traiter. Vivre le contrat à rebours, c'est édité chez Gallimard, et ça nous a fait extrêmement plaisir de vous recevoir cet après-midi. Un grand merci de votre passage et bonne suite pour le marathon. Merci.